Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Avec le déclenchement du conflit au nord du Mali en 2012, les écoles ont été les premières affectées. La dégradation de la crise a entraîné le déplacement d'une masse importante de population et la fermeture de facto des écoles. Et même les comités de gestion scolaire peinent à fonctionner normalement. Nos invités pour débattre du sujet, Modibo Traoré, directeur du Centre d'animation pédagogique de Nyonou, Seydou Togo, président du comité de gestion scolaire de Koporopin, premier cycle à Kapokoro, Victorien Dakono, maire chargé d'éducation de la commune rurale de Diabali, Lassana Aruna Fofana, représentant de Ciprocide. Je suis Fatmata Togola.
Le grand dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Traoré. Pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce qu'un comité de gestion scolaire?
Merci, Madame Togola. Un comité de gestion scolaire est une structure rattachée aux collectivités territoriales et qui a pour objet la gestion des établissements scolaires. Dans le cadre de la décentralisation, le Mali, dans sa politique éducative, a souhaité mettre en place un organe au nom des collectivités territoriales pour mieux gérer l'espace scolaire. Voilà ce que je peux vous dire d'introduction. C'est qu'un comité de gestion scolaire.
Alors, Monsieur Togo, en tant que président du comité de gestion scolaire de Koporopin, premier cycle à Cap de Koro, qu'avez-vous ajouté au propos de Monsieur Traoré concernant les comités de gestion scolaire?
Merci, madame. Ce que le DECAP vient de dire, ce n'est que ça. Le comité de gestion scolaire, c'est une structure qui est mise en place par la mairie pour gérer l'administration, les affaires courantes de l'école.
D'accord. Et vous, monsieur Dakono?
Ok, merci bien, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer par rapport à ce sujet. Effectivement, le comité de gestion scolaire, c'est la main des collectivités au sein de l'école. Elle est là, elle sert de lien entre l'école et les collectivités territoriales, et elle est élue démocratiquement. Le comité de gestion compte 14 membres. 7 sont élus et 7 sont nommés au sein de structures qui tournent autour de l'école, c'est-à-dire enseignants, élèves, parents d'élèves, voilà, c'est ça.
D'accord. Merci. Alors, monsieur Fofana, avez-vous quelque chose à ajouter au propos de vos prédécesseurs?
Bon, au risque de les répéter, je dirais tout simplement que c'est un outil de travail au maire des collectivités territoriales qui doit aussi à la fois servir de trait d'union entre l'administration scolaire, les communautés et la collectivité.
D'accord. Alors, monsieur Togo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la différence entre l'association des parents d'élèves et les comités de gestion scolaire?
Merci, madame. Le comité de gestion s'occupe des affaires de l'école. La mise en place, toutes les démarches inhérentes à l'école, le comité de gestion s'est chargé de ça. La mobilisation, la surveillance, le recrutement, le gardiennage, etc. Bon, donc, au sein du comité de gestion, il y a aussi les appuis des parents d'élèves, il y a aussi la mairie. Donc, tous ensemble travaillent sur le bon fonctionnement de l'école.
D'accord. Oui, monsieur Fofana, vous voulez réagir?
Non, je ne voulais pas réagir par rapport à cette question. Oui. Mais de mon point de vue, je me dis, j'assimile un peu l'association des parents d'élèves comme la communauté, c'est-à-dire la communauté qui est là. Les parents d'élèves, puisque les parents d'élèves font partie intégrante de la communauté, donc c'est, je l'assimile à la communauté. Ça, c'est de mon point de vue.
Ok. Oui, monsieur Traoré.
C'est très bien. Effectivement, comme on l'a dit, le comité de gestion est un organe des collectivités territoriales. qui a les mêmes attributions que les collectivités vis-à-vis de l'éducation. L'État a transféré des compétences par rapport à la gestion de l'école. Et au nom des collectivités et au niveau de chaque école, c'est le comité de gestion qui joue ce rôle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école tourne autour du comité de gestion. Si cela fonctionne très bien, ça va de la santé de l'école. Mais si les comités de gestion, on ne le souhaite pas, n'arrivent pas à fonctionner comme on attend d'eux, à travers la décentralisation, les choses n'iront pas bien. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on doit être regardant par rapport à cette structure-là. La différence est que l'autre, le comité de gestion est un organe des collectivités qui a, par rapport aux compétences transférées, les mêmes attributions que les collectivités de rattachement vis-à-vis de l'école. Quant aux associations des parents d'élèves, alors, c'est des structures qui ont un rôle au sein de la communauté de mobiliser la communauté vers l'école et vient en appui au comité de gestion au niveau de l'école à travers la mobilisation de la communauté. Donc, c'est un bâillon important, mais c'est une association qui prend source au niveau de la communauté seule. Mais l'autre, ce n'est pas seulement la communauté, il y a la communauté et la structure école elle-même au sein de cet organe-là. Donc voilà pourquoi il ne faudrait pas les confondre. Le comité de gestion a en son sein l'association des parents d'élèves.
D'accord. Voilà. Et vous, Monsieur Dakono, vous faites partie de quelle structuration dans tout ça?
Nous, c'est la collectivité. Okay. Donc nous travaillons en collaboration avec le CGS, qui est le comité de gestion scolaire.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle?
Oui, l'éducation en monde décentralisé, l'école est revenue aux collectivités. À ce titre, j'allais dire que l'école appartient aux collectivités. Maintenant, en tant que structure, la collectivité, elle veille au bon fonctionnement du CGS afin que vraiment le travail qui lui est assigné puisse aller correctement et dans l'intérêt des enfants qui sont là.
D'accord. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, M. Traoré, oui.
Bon, c'est bien effectivement ça. Comme je l'ai dit, le maire et ses conseillers ne peuvent pas être dans toutes les écoles. En même temps, être dans tous les centres de santé communautaire, en même temps, tous les services de développement aujourd'hui en mode décentralisé relèvent des collectivités, le maire et ses conseillers. Alors donc, il faut trouver des outils de travail qui pourront valablement représenter le maire et ses conseillers au niveau de chaque structure. Voilà pourquoi le comité de gestion qui est là est rattaché à la collectivité de son ressort à travers une convention. Et là, cela amène à faire ressortir des aspects dans la collaboration entre le comité de gestion et la mairie.
Mais quelle est cette convention-là?
Il y a une convention qui engage, parce qu'il y a un engagement, des engagements par rapport au travail que le comité de gestion doit faire sous la responsabilité de la collectivité de rattachement. Et là, cet engagement est écrit, paraphé de tous les côtés, et ce qui permet de suivre le travail du comité de gestion et de l'accompagner au niveau des établissements. Voilà pourquoi un maire chargé de l'éducation au sein d'une commission éducative au niveau de chaque collectivité veille sur le fonctionnement de l'école à travers les rapports mensuels que les comités de gestion doivent adresser au maire à la fin de chaque mois.
D'accord.
Ce qui dénote de sa fonctionnalité. Chaque comité de gestion doit tenir réglementairement une réunion chaque fin du mois.
Alors, vous renvoie à cette question-là, M. Fofana. Est-ce que ces réunions-là sont respectées, comme M. Traoré le dit?
Effectivement, ces réunions-là sont respectées parce que ça fait partie des éléments de fonctionnalité d'un comité de gestion. Et suivant l'arrêté 370, si je ne m'abuse, M. Traoré, si je ne m'abuse, suivant l'arrêté 370 qui détermine la création, qui fixe les conditions de création des comités de gestion scolaire, vous voyez qu'il y a tous ces éléments-là qui figurent, certains éléments qui figurent là-dedans, dont le problème de convention, renouvellement, les plans d'action, les projets d'école, qui font partie de ces éléments-là. Même le fait de rendre compte et puis la tenue de réunions régulières, qui font partie des éléments de fonctionnalité et des comités de gestion. Un comité de gestion qui ne remplit pas toutes ces conditions n'est pas assimilé à un comité de gestion fonctionnel. Et comme on vous l'a dit tantôt, que c'est un outil, le comité de gestion est un outil de travail pour les collectivités territoriales, ça fait partie de l'éducation aussi bien que l'hydraulique, la santé, font partie des premières compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.
D'accord. Alors, Monsieur Togo, selon vous, quelles sont les zones concernées par les CGS, mis à part votre localité? Les autres zones concernées par les comités de gestion scolaire? Ou bien c'est partout sur l'étendue du territoire maintenant?
C'est partout sur toute l'étendue du territoire.
C'est partout. Mais est-ce que vous avez une idée du fonctionnement des autres comités de gestion? Vu que vous devez avoir des réunions, des rapports ensemble.
Bien, on dit que la fonctionnalité d'un comité de gestion, ça se lie par rapport à ses réunions, qu'elles soient mensuelles ou bien extraordinaires. Tant qu'il n'y a pas ça, le comité de gestion ne vit même pas, parce que les informations de la base ne partent pas aux collectivités territoriales et de nulle part. Donc, tant qu'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de comité de gestion.
Et en ce qui concerne les autres zones, est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec d'autres comités de gestion, d'autres localités?
Dans nos zones, il y a toujours des réunions au niveau du CAP qui réunit tous les présidents du comité de gestion ou bien leurs représentants pour des réunions. D'accord. Donc c'est là où on véhicule les informations.
D'accord. Alors, Monsieur Traoré, quels ont été les effets de la crise sur la fonctionnalité des CGS
Merci bien. Alors donc, la crise sécuritaire que notre pays a connue et dont les effets collatéraux continuent, n'a pas affecté seulement que les comités de gestion. Cette crise, on peut dire que les communautés qui sont dans ces zones affectées ont été perturbées dans leur quiétude, ce qui a amené effectivement des mouvements d'individus, ce qui a aussi freiné les initiatives des uns et des autres. Ça, c'est dans l'ensemble. Alors, en ce qui concerne l'école, certaines écoles ont été jusqu'à la fermeture. Alors, lorsque l'école est fermée, le comité de gestion, on ne peut plus parler de sa fonctionnalité. Par contre, d'autres sont restées ouvertes, mais compte tenu de la perturbation au niveau de la société, certains membres se sont déplacés, ce qui fait appel à un remembrement du comité de gestion. D'autres, par contre, sont restés sur place. Mais compte tenu de la menace qui persiste, alors ne pouvaient plus aller vers des rencontres parce que les regroupements faisaient peur. Donc on peut dire que quelque part la crise a affecté totalement certaines écoles où on ne pourra plus parler de comité de gestion, mais par contre d'autres qui fonctionnaient avaient un besoin d'accompagnement pour repositionner cette structure-là dont la santé va de la santé de l'école. Donc, on peut dire que dans nos zones affectées, la majeure partie des comités de gestion avaient un besoin d'accompagnement pour aller vers une meilleure gestion.
D'accord.
Donc voilà ce que je peux vous dire en la matière.
D'accord. Et vous, monsieur Dakona, avez-vous une idée sur combien de CGS ont survécu à la crise ?
De ma commune, je peux dire de ma commune.
Oui, allez-y.
Je parle bien de ma commune. De ma commune, j'allais dire, c'est les écoles qui sont axées autour des grands villages qui ont un peu survécu. Sinon, les écoles qui sont en zone exondée là, et ils sont carrément partis. Ils ont été. Ces CGS-là vraiment n'existaient plus. Bon. Et même au sein des gros villages là, où nous avons deux ou trois écoles, et il se trouve qu'il y a une méfiance totale qui s'est installée au sein de la population, alors au sein même des membres des comités de gestion. Si bien que le travail était pratiquement. Il n'y avait plus de travail, hein, parce qu'il n'y avait plus de réunions, et il n'y a plus de compte rendu. Alors vous voyez, donc quelque part, alors le travail était carrément arrêté. Et le lien aussi entre les CGS et les collectivités, ce lien aussi a été rompu.
D'accord.
Parce que tant qu'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de. Donc finalement, c'est ça.
Oui. Okay. Alors, oui, allez-y, monsieur Fofana.
Par rapport à votre question, sur l'ensemble des 5 régions couvertes par le projet ESA, il y avait 2388 comités de gestion fonctionnels avant la crise. Avant la crise, 2388 comités de gestion fonctionnels.
Et actuellement ?
Et les 1730 ont été victimes de la crise et 905 ont survécu à la crise. Pour répondre à...
Qui ont survécu. Et qu'est-ce qui fait que ces 900 ont survécu et les 1000 n'ont pas survécu?
Bon, parce que déjà, les gens ne sont pas restés passifs. Hein. Les communautés, en termes de collaboration entre les comités de gestion et les partenaires traditionnels, c'est-à-dire les communautés, les collectivités territoriales, les services déconcentrés. Donc, il y a eu une concertation, une synergie d'action entre ces différents acteurs qui a permis... vraiment de développer des stratégies et d'être résilient par rapport à cette situation. Parce qu'ensemble, quand vous cogitez, vous êtes impliqués, chacun se sent responsable. Donc à partir de là, maintenant, ils ont développé des stratégies pour pouvoir faire face pour survivre. Voilà.
Oui. Voilà. Alors, M. Togo, votre comité fait bien partie des 900 qui ont survécu?
Oui.
Et quels ont été les défis auxquels vous avez eu à faire face?
Ok. D'abord, la crise sur la fonctionnalité d'abord du comité de gestion, ça a amené des arrêts dans le fonctionnement même du comité de gestion. La mobilisation était quasiment nulle. Et les partenaires, certains partenaires sont partis. Les AG ne se faisaient plus. Les gens étaient méfiants. Bon, il y avait beaucoup de trucs, donc rien ne fonctionnait presque dans les zones où la crise était carrément affectée. Maintenant, dans les zones où la crise était partiellement affectée, bon, les gens étaient méfiants, mais ils se méfiaient des réunions. Donc, avec l'arrivée...
Pourquoi ils se méfiaient des réunions?
Oui, pour ne pas être victime. Pour ne pas être victime. Donc, avec l'arrivée de certains partenaires qui sont venus sensibiliser, redynamiser le comité de gestion, donc il y a eu un départ. C'est comme ça que certains comités de gestion, aujourd'hui où nous sommes, sont excellents.
D'accord. Et en ce qui concerne le financement?
Le financement, les partenaires qui ont fui, ils sont partis. Mais il y a des partenaires qui sont revenus, qui sont venus. Et qui ont pris les comités de gestion en charge, qui ont pris les activités, de toutes les activités presque du comité de gestion, que ce soit le projet d'école, que ce soit le plan d'action du comité de gestion, ils ont pris en charge, ils ont financé, et le comité de gestion a travaillé, et les enseignants, et au niveau du CAP, et la communauté, tout le monde a bénéficié de ces avantages.
Donc l'accompagnement que M. Traoré a mentionné a été pris en compte.
Tout à fait.
Dans cet aspect-là.
Tout à fait.
D'accord. Oui.
D'accord. Donc juste par rapport à la question toujours,
oui.
Vous dire qu'effectivement, les comités de gestion qui sont restés fonctionnels l'ont été par des accompagnements de certains acteurs. Alors, donc, avec la crise, effectivement, nous avons des partenaires qui ont songé venir en appui aux communautés qui manifestent le besoin d'être accompagnées. Et c'est pourquoi nous avons des ONG qui ont pu lever des fonds auprès des partenaires financiers pour venir accompagner les communautés qui souffrent de la crise. Et c'est ainsi que nous avons reçu, dans le cadre de l'urgence, certaines ONG venant pour intervenir auprès de la communauté. Mais c'est le lieu aussi de le dire. J'aimerais, partout où j'aurai l'occasion, de le dire qu'il y en a parmi ces ONG qui, effectivement, ont fait semblant d'aller vers l'urgence.
Quand vous dites ils ont fait semblant...
Semblant d'aller vers l'urgence, parce que lorsque les nécessités qui sont ceux-là, qui sont dans le feu de l'action et qui auraient souhaité avoir une solidarité tout autour d'eux et auraient aimé recevoir l'aide et l'appui de l'extérieur, quand on monte des projets pour aller accompagner ceci et on reste en cours de chemin, c'est pourquoi je dis semblant. Alors, je dis, c'est le lieu de le dire parce que parmi ces ONG, certaines, par contre, ont pu aider les nécessiteux. Et je cite un exemple, USAID ESA, qui, dans le feu de l'action, avait des agents de mobilisation communautaire parmi les communautés qui souffrent de la crise. Et du début du projet jusqu'à la fin du projet. Nous avons vu certains qui en avaient monté des projets, mais qui se sont arrêtés à mi-chemin. Soi-disant que les zones sont des zones rouges, nous ne pouvons pas y accéder parce que la menace est là. Si vous levez des ressources pour aller aider les nécessiteux, je pense que la décence voudrait qu'on aille jusqu'à eux. Et là, c'est pourquoi je profite de cette rencontre-là pour pouvoir dire que réellement, nous tirons le chapeau à l'USAID ESA par rapport à cet engagement qui les a amenés jusqu'auprès de la communauté, parmi les communautés, et les apporter ce dont ils auront besoin. Donc, pour dire que les comités de gestion qui ont survécu et qui aujourd'hui sont fonctionnels à merveille, l'ont été avec l'accompagnement de USAID ESA dans nos zones affectées et nos zones en crise. Donc, ils ont d'abord aidé les collectivités au renouvellement des comités qui étaient en fin de mandat et à installer des comités là où il n'y en avait pas. Donc, c'est dire que quelque part, ce travail que les collectivités devraient faire a pu avoir un appui en venant de ce projet-là pour aller installer et mettre en place des comités de gestion.
D'accord.
Voilà, donc je voudrais tout juste, parce que c'est très important de le dire, parce qu'un comité de gestion, effectivement, comme on l'a dit à l'introduction, lorsque la mise en place a lieu, c'est de façon démocratique. Parmi les 14 membres, il y a 7 membres qui sont élus, comme les conseillers communaux, et aussi ils sont élus de la même manière. Alors donc, à partir de l'élection, lorsqu'on dégage les 7 membres élus, on ajoute à ces 7 membres des membres de droit, ils sont aussi au nombre de 7. Et ces 7 membres de droit, il y a le directeur de l'école, il y a le représentant des enseignants, il y a le représentant des élèves, il y a l'APE qui est représentée, il y a la société civile qui est aussi représentée. Mais là, on demande qu'il faut tenir compte de l'équité genre.
D'accord. Voilà. Alors, M. Fofana, les aspects exposés par M. Traoré tout de suite, quelle est la réalité sur le terrain?
Bon, la réalité sur le terrain, comme il vient de le dire, c'est vraiment la réalité. Ce dont il vient de parler, c'est la réalité. Parce que déjà, dans la démarche de ESA, du projet ESA, ce que moi je retiens fortement, c'est qu'il y a eu cette implication, l'implication des acteurs, de tous les acteurs concernés. Et les acteurs ont été fortement impliqués. Or, si l'implication elle est superficielle, la participation aussi devient superficielle. Donc, vous avez vu, même l'accompagnement dont il a parlé, auquel il a fait allusion, cet accompagnement des agents communautaires qui sont à côté des gens, qui ne sont pas devant, mais ils sont derrière et avec les gens. Donc, ça, c'est des éléments qui ont contribué au succès dont on parle aujourd'hui. Les gens ont été formés sur leur rôle et responsabilité et ils s'assument. Ils se sont même appropriés l'école. Donc il y a ce terme, ce truc d'appropriation, ils se sont appropriés l'école, en passant du président du comité de gestion jusqu'à tous les membres, vous voyez qu'il y a une réelle appropriation grâce à l'accompagnement fait par le projet ESA et d'autres, en collaboration avec d'autres acteurs, bien sûr.
D'accord. Alors, M. Dacono, quel rapport entre les CGS, les communautés, les collectivités de tutelle et les services décentralisés du ministère de l'Éducation?
Très bien, merci. Effectivement, c'est le très bon rapport. Et, comme je le disais, les CGS, c'est les bras des comités de gestion au sein de l'école. Donc, les CGS rendre compte aux collectivités et les autres structures de l'éducation, j'allais dire, c'est des partenaires techniques et ils supervisent la fonctionnalité et l'accompagnement pédagogique et tout ce qui s'en sort de cela. Mais la fonctionnalité des CGS, c'est avec les collectivités de l'État, les collectivités décentralisées, et maintenant qui rendent compte et à la structure technique qui est le CAP et c'est démembrement.
D'accord. Voilà. Et vous, Monsieur Togo, votre réaction?
Bon, le comité de gestion, vous savez, est issu de la communauté. Donc, il est issu de la communauté. Le comité de gestion, donc, tout ça, c'est chapeauté par la collectivité territoriale. Donc, le comité de gestion, de par son mandat, travaille, rend compte aux communautés, après, rend compte aussi aux collectivités territoriales et aux structures déconcentrées. Donc,
C'est une bonne collaboration entre les différentes structures, si je ne puisse me le permettre.
Tout à fait.
D'accord.
Tout
à fait. Je veux juste dire, ajouter
à ce niveau. Allez-y, Monsieur Fofana.
Et que chacun s'assume. Mm-hmm. Quand vous prenez les services déconcentrés, surtout l'administration scolaire, les DCAP aussi bien que les directeurs d'école, c'est des fonctions d'appui-conseil. Et ils s'exécutent par rapport à ça. Et la collectivité qui a délégué une partie de ses pouvoirs au comité de gestion, aussi elle s'assume. Donc quand vous déléguez vous déléguez quelque chose, parce que soit on ne peut pas le faire ou bien on ne veut pas le faire. Étant donné que ça a été délégué à ces gens, eux, ils sont obligés de rendre compte. Ils sont obligés de rendre compte. Et la communauté dont ils sont issus, ces comités de gestion-là sont issus aussi. Donc, c'est au nom de ceci qu'ils parlent. Donc, ils sont obligés aussi de rendre... ils doivent rendre compte à ceci. Donc, ce qui fait que chacun est dans son rôle et que c'est à eux maintenant de rendre compte. Le fait de rendre compte, c'est ce qui facilite un peu les bons rapports. Parce que quand vous rendez compte et que vous communiquez, il n'y a pas de déficit de communication, et que la communication se passe bien, il va de soi que les gens se comprennent. Et tout, même s'il y a des points de blocage, ces points de blocage sont le plus souvent élevés. Donc nous, ce que nous on a senti sur le terrain, c'est que vraiment, entre ces différents acteurs, vraiment, il y a une très bonne collaboration. Et chacun joue son rôle comme il le faut.
D'accord. Oui, monsieur Dakono.
Je voudrais un peu ajouter là. C'est, ça, c'est la légitimité de ces comités de gestion-là. Parce que tous les comités de gestion qui ont été dans le cadre du projet USAID-ESA, et ils ont été installés à la présence du maire chargé et à la présence d'un conseiller du CAP. Et les 7 membres élus, l'élection se fait démocratiquement. Voilà, donc ça, c'est très important. Et tant qu'il y a un bureau qui est légitimement reconnu, il y va de son... De sa fonctionnalité et de sa crédibilité.
D'accord. Oui, M. Traoré.
Bien, merci. Bien. Alors, donc, je pense que les relations sont très bonnes. D'autant plus que, quelque part, le comité de gestion va servir de trait d'union entre l'école, les collectivités d'une part, l'école, les services techniques, d'autre part. Lorsque les choses marchent normalement, vous trouverez que la communication s'installe entre ces différentes structures à travers l'accompagnement que, d'une part ou de l'autre, l'on fait à l'endroit de l'école. Les besoins qui seront exprimés au niveau de chaque comité de gestion à travers leur projet d'école. Je vais faire une grande parenthèse pour dire que lorsque le comité de gestion est mis en place, au-delà de la convention qui la lie à la collectivité de rattachement, il y a le projet d'école qui est élaboré par le comité de gestion sur une durée de 3 ans. Le mandat du comité, c'est 3 ans. Donc, sur cette durée de 3 ans, le comité de gestion élabore un projet d'école. Dans le projet d'école sont exprimées les intentions de développement de l'école.
Pendant trois ans. Ok.
Alors, donc, à l'intérieur de ces intentions, on développe ce qu'on veut entreprendre au niveau de l'école par rapport à son développement. Et lorsque cela est fait, soumis pour validation à la collectivité d'accueil et de rattachement, alors là, avant que la collectivité de rattachement ne se prononce, le service technique est regardant par rapport aux intentions pour aider à mieux structurer les besoins selon les capacités et les compétences au niveau de la collectivité. Donc, lorsque cela est retenu, ce projet est accompagné aussi d'un plan d'action qui est annuel. Qu'est-ce que nous voulons faire annuellement au niveau de notre établissement? Donc, il y a des actions qui sont dedans, des actions qui vont nécessiter souvent des accompagnements en termes de budget, des accompagnements en termes de connaissances, de compétences pour accompagner la réalisation de ce plan d'action. Donc, pour l'exécution du plan d'action, la collectivité de rattachement est regardant par rapport au fonctionnement du comité de gestion, d'où relation étroite. Le service technique qui accompagne pour la mise en œuvre de ce plan d'action est regardant par rapport au contenu du même plan d'action. Donc, d'accord, d'où relation étroite entre comité de gestion et collectivité de rattachement, service technique. Voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire par rapport à ce point.
Oui, M. Togo,
juste
allez-y.
Juste pour ajouter un mot sur ce que le DECAP vient de le dire. Le comité de gestion, quand il fait son projet pour 3 ans, il fait une assemblée générale au niveau de la communauté et rend compte ce qu'il a eu à établir. Parce que dans le comité dans ce plan, il se peut que la communauté doit payer quelque chose. Donc, on les fait savoir que bon, voici ce que le comité de gestion a structuré pour 3 ans. Donc, voilà maintenant, on détaille et puis on les montre. Eux aussi, ils approuvent. Quand ils approuvent maintenant, on va maintenant à la mairie. Et la mairie regarde. Et puis, si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, la mairie aussi donne ses amendements. Après, quand tout est fini, on revient à la communauté. On dit qu'on fait une AG encore pour dire que voici le plan d'action et le projet de l'école. Du comité de gestion.
Donc, si je comprends bien, à chaque étape du projet, il y a une restitution à la
communauté. Il y a une restitution à la base.
D'accord.
Parce qu'ils sont toujours impliqués.
D'accord.
C'est ça l'étroite collaboration entre le comité de gestion, la communauté, la mairie et les structures décentralisées.
D'accord. Oui, M. Fofana ?
Non, c'est parfait ce qu'ils ont dit.
D'accord. Alors, quelles sont les recommandations pour une fonctionnalité pérenne des CGS en situation d'urgence ?
Bon. Je crois que, en termes de recommandations, je crois qu'il faudrait commencer par un renforcement de capacité. Et quand je dis renforcement de capacité ici, il ne faut pas qu'on tombe un peu dans les mots attardés, parce que sans contenu, moi je dis parce qu'on travaille sur du matériau humain et qu'on travaille sur du matériau humain qui est souvent renouvelé. Le comité de gestion, comme on vient de le dire, il y a un mandat pour un mandat de 3 ans. Souvent, il y a un remembrement, peut-être souvent même, il y a un renouvellement à 100%. Donc, il faudrait toujours essayer de renforcer les capacités de ces gens en termes de formation, sur la connaissance de leur rôle et responsabilité, droits et devoirs par rapport à ça, vraiment jusqu'à ce que les gens y comprennent bien cet aspect-là. Donc, les membres du comité de gestion, un renforcement des capacités à ce niveau. Un deuxième niveau, c'est l'amélioration des infrastructures. Parce que vous venez d'entendre, il y a des écoles qui ont été détruites, des équipements qui ont été détruits. Bien vrai que les gens ont fait des efforts. Il y a des besoins qui sont là, qui sont à satisfaire. Donc, en termes d'amélioration, il faudrait aussi aller un peu dans ce sens-là. Un autre axe qu'on prévoit à ce niveau aussi, en termes de mobilisation des ressources, ne serait-ce que trouver des voies et moyens pour la création, la mise en place d'activités génératrices de revenus afin que les gens puissent mobiliser les cotisations. Parce que là, déjà, c'est vrai que le partenaire, il a beaucoup fait, mais l'idéal serait qu'à un certain moment, nous-mêmes, le comité de gestion, arrive à s'approprier tout le processus quitte à la mobilisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la crise a affecté les gens, même au niveau de... Ça les a privés non seulement de déplacement, de liberté. Il y a eu une privation de liberté. Mais en termes même d'anéantissement des activités économiques, ça a joué sur ça, ce qui a un peu réduit un peu, en termes de mobilisation.
Et vous, M. Traoré ?
Ah oui, j'abonde dans le même sens, en disant qu'effectivement, en termes de recommandations, par rapport à la pérennisation de ces comités de gestion, nous aurions souhaité que l'accompagnement ne fasse pas défaut, que du côté des collectivités, qu'on soit regardant par rapport à ces comités de gestion, sur le partenaire qui est venu et qui nous a donné un exemple que nous pourrions emboîter pour pouvoir continuer avec ces comités de gestion afin que nous ne retombions dans la situation de départ après le retrait du partenaire. Donc, du côté des collectivités, du côté des services techniques, il vaudrait mieux qu'on fasse tout pour accompagner ces comités de gestion allant vers une pérennisation des acquis de la collaboration. Et au-delà, nous aurions souhaité, ça c'est par rapport à une urgence, des partenaires sont venus, mais l'État, dans sa conception, l'État, dans son fonctionnement, devrait avoir pris en compte cette dimension d'urgence pour accompagner, mettre en place des mécanismes qui feront que, éventuellement, lorsqu'on se trouve devant une telle situation, que l'État puisse venir au secours des nécessiteux. Je pense que ça, c'est là aussi, pourrait aider mieux le bon fonctionnement de ces comités de gestion.
D'accord. Voilà. Et vous, M. Dacono ?
Oui, effectivement, bon, nous allons tous aborder dans le même sens. Hein. Moi, je dis pour la pérennisation de ces actions-là, l'accompagnement, surtout en termes de renforcement des capacités, L'ESA, le projet ESA, pratiquement, il a fait une formation pour le renforcement des capacités pour tous les bureaux qui ont été renouvelés. C'est très important. Et je pense que c'est un acquis et qu'il faut consolider. L'accompagnement, j'allais dire, de l'État est nécessaire. Nous, en tant que collectivité, il faut reconnaître que les zones affectées, à présent, vivent des séquelles de la crise. À présent, il n'y a pas recouvrement de taxes, il n'y a pas recouvrement d'impôts. Or, ce sont là les moyens financiers de ces collectivités-là. Les écoles étant maintenant en mode décentralisé et revenu aux collectivités, des fois, les collectivités ont des problèmes vraiment à subvenir aux besoins de ces écoles-là. Le projet, il a beaucoup investi en kit, en matériel wash, et en équipement, en clôture, tout. Mais ça ne doit pas rester là. Vraiment, nous sollicitons quand même que l'État fasse un pas pour vraiment que l'État soit un peu regardant quand même par rapport à ces zones vraiment qui sont toujours et qui vivent toujours les séquelles de cette crise-là.
D'accord. Et vous, oui. Monsieur Togo, pour atteindre vos objectifs, qu'est-ce que vous attendez concrètement?
Bon, concrètement, d'abord, par rapport à la pérennisation de ces acquis, moi, je vous avoue que le projet USAID ESA a tout fait, et dans ma localité, toute la communauté, sans exception, tous les acteurs sont partants. Tous sans exception. La preuve en est que la dernière réunion qu'on a eu à faire, le projet ESA était présent. C'était par rapport au projet d'urgence. Ils ont eu à financer un projet d'urgence chez nous. Nous, on a pris sur les catastrophes naturelles. Il se peut, on ne le souhaite pas, que les catastrophes naturelles surviennent un jour dans nos communautés, au sein de l'école. Donc on a pris une inondation et le projet ESA a eu à financer ça jusqu'à concurrence de 1 million et quelques. Donc la communauté était venue, le projet a envoyé ses agents, ils sont venus faire le constat. Tout le monde était émerveillé. Donc ça, déjà, ils sont d'accord pour la pérennisation même des acquis du projet ESA.
D'accord. Mais mis à part les pérennisations, qu'est-ce que vous voulez qu'on change, ou bien qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau?
Apporter de nouveau, c'est continuer ce qu'on a eu, ce que nous avons acquis. Continuer, améliorer davantage que... Nous souhaitons à ce que le projet revienne. D'ailleurs, la communauté l'a dit. Ils ont dit que même si le projet va, que le projet revienne pour soutenir les enfants en cantine scolaire. Ils ont même dit ça à la réunion, en cantine scolaire. Donc, ils sont prêts parce qu'ils étaient très contents.
D'accord. Oui, Monsieur Fofana, avant de boucler ce débat.
Nous, on ne pourra pas tout dire ici, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les uns et les autres s'approprient d'un fait. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la décentralisation, chose irréversible. Alors donc, aujourd'hui, l'école est revenue à nous. C'est notre propriété maintenant. C'est à nous de prendre toutes les dispositions pour que ça fonctionne. Bien vrai qu'on peut demander de l'aide, mais il faudrait compter d'abord sur soi. Je pense que déjà les compétences ont été mises à la disposition des comités de gestion leur permettant de mieux gérer. Donc ces compétences qu'ils les utilisent au sein de la communauté d'abord pour aller de l'avant. Ne pas toujours compter sur l'aide extérieure. Alors donc, moi je pense que si des tribunes comme ça peuvent se multiplier, ça nous permet de communiquer directement avec le grand public pour leur dire que nous sommes dans une nouvelle logique
Et cette logique, c'est la décentralisation qu'on s'en approprie.
D'accord. Merci beaucoup. Merci. Cela me fait à ce débat. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Un grand merci à nos invités. Modibo Traoré, directeur du Centre d'animation pédagogique de Niono. Sédou Togo, président du comité de gestion scolaire de Koporopin, premier cycle à Cap de Koro. Victorien Dakono, maire chargé d'éducation de la commune rurale de Diabali. Lassana Aruna Fofana, représentant de CEPRO-SID. Ce débat était une collaboration entre le Studio Tamani et le programme d'engagement civique de l'USAID. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keita. La régie doit être assurée par Gagne Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Dmoundi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.